Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Affaire Thomas Sankara, 7 condamnés ont fait appel selon un communiqué du tribunal à militaire. Dossier Inata, 13 personnes ont été entendues en qualité à deux témoins. Mauvaise nouvelle pour la population, les prix des hydrocarbures augmentent de 100 francs CFA. Nous sommes le 12 mai aujourd'hui et c'est la journée internationale de l'infirmière. À cette occasion, Radio Média fait un zoom sur Asita Kam, infirmière depuis 21 ans. Attaque terroriste au poste opérationnel avancé à deux Kankandi au Togo. On en parle avec notre invité du jour. Il s'agit d'Alkassoum Abdourahman, analyste socio-politique spécialisé sur les questions humanitaires et sécuritaires au Sahel. Interview à suivre juste après cette édition. Bonjour et bienvenue à cette édition. 7 condamnés dans le dossier Thomas Sankara ont fait appel. C'est ce qu'a fait savoir ce jeudi le tribunal militaire. Dans le cadre de cette affaire, 3 des 14 accusés ont été relaxés, tandis que les autres ont reçu des peines allant de 3 à 20 ans. L'ancien président Blaise Compaoré a été condamné à la prison à perpétuité dans le cadre de cette affaire toujours. Le général Djindjiri et Yacine Kafando subissent les mêmes peines. Autre dossier évoqué par le tribunal militaire, c'est l'affaire Inata. 13 personnes ont été entendues en qualité de témoins pour des faits susceptibles d'être qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui, abstention de porter secours à des personnes en péril, refus d'obéissance ou toute autre infraction que l'infraction en viendrait à découvrir. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le tribunal militaire dans un communiqué. Selon le parquet du procureur militaire, le dossier Inata est en cours au cabinet du juge d'instruction saisi pour caractériser les faits et déterminer X. L'instruction du dossier ministère public compte X ouvert suite au rapport d'enquête administrative sur l'attaque du détachement de la gendarmerie à Inata, appelé dossier Inata, est en cours dans le cabinet du juge d'instruction, saisi pour caractériser donc les faits et déterminer et également les éventuels responsables sur le plan pénal, indique le communiqué du tribunal militaire toujours. L'attaque d'Inata dans le Sahel a fait à 57 morts, dont 53 gendarmes et 4 civils et plusieurs disparus le 14 novembre dernier. Le dossier Inata soulève des polémiques ces derniers temps, avec de plus en plus des voix qui réclament la publication du rapport d'enquête sur ce drame. Le tribunal militaire a aussi annoncé ce jeudi toujours que le dossier concernant le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana connaît des avancées avec la mise en examen de 9 personnes et l'audition d'une trentaine de témoins. L'information ouverte contre le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana et plusieurs autres pour des faits susceptibles de recevoir les qualifications de complot, détournement de biens publics, faux et usage de faux, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux connaît donc des avancées dans la manifestation de la vérité avec la mise en examen de 9 personnes et l'audition d'une trentaine de témoins, peut-on lire dans le communiqué du tribunal militaire. Le parquet militaire rassure sur les actes d'instruction se poursuivent normalement donc. Il importe d'indiquer qu'en ce qui concerne le principal mis en cause, des limitations de visite ont été rendues nécessaires à un certain moment pour des raisons de sécurité, pour les mêmes raisons et d'autres qui lui sont en personnel. Le lieutenant-colonel Zungrana a souhaité limiter ses visites à des personnes qu'il entend en désigner, précise le communiqué. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana avait été placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de correction des armées le 14 janvier dernier sous le régime Kabore pour une tentative présumée de déstabilisation des institutions de la République. Et nous parlons justice toujours. Suite à l'attaque de la prison de Nouna dans la boucle du Mouhoun, une quinzaine de détenus se sont signalés selon le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Nouna. Près d'une cinquantaine de prisonniers sont toujours dans la nature, précise le communiqué. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, la maison d'arrêt et de correction de Nouna a été la cible d'une attaque terroriste qui a occasionné le décès d'un volontaire pour la défense de la patrie VDP des blessés au nombre de deux parmi les détenus, d'importants dégâts matériels et le départ des détenus de la dite maison d'arrêt au nombre de 62. En attendant des mesures concrètes pour permettre aux dix détenus de se mettre en position régulière, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Nouna invite tous les prisonniers qui sont toujours dans la nature, sans exception, à se rendre dans les meilleurs délais aux unités de police judiciaire de Nouna, à toute autre unité de police judiciaire ou devant tout parquet de leur résidence pour se faire enregistrer tout en restant à la disposition de la justice jusqu'à nouvel ordre. Il ajoute que tous ceux ou celles qui ne se soumettront pas à cette mesure seront considérés comme des détenus, évadés et traités comme tels. Les directeurs généraux du cadastre minier et de l'ONACER ont été relevés de leur poste hier en Conseil des ministres avec effet immédiat, une décision prise afin de mettre fin à certains dysfonctionnements constatés dans leur service selon le gouvernement, qui a aussi décidé d'augmenter le prix du carburant afin de faire face au trafic illicite de carburant vers les pays voisins. 100 francs CFA de plus donc sur le litre du carburant, le point de ce compte-rendu avec Chalda.
Le Burkina Faso veut mettre fin à la fraude du carburant. Tenant compte des réalités que vivent les Burkinabés, le gouvernement décide d'ajouter 100 francs sur le prix du litre d'essence. Cette augmentation vise à éviter que l'essence ne soit exportée vers les pays voisins. C'est justifié le ministre en charge du commerce, Abdoulaye Tall.
Et étant donné qu'on est moins cher que la plupart de nos voisins, les consommations frontalières ont explosé parce qu'il y a une exportation de notre carburant et donc de notre subvention vers nos voisins. Cette situation aggrave le déficit parce que si la Sonabi achète à 900 et revend à 500, ça veut dire que c'est l'État qui est censé combler 400. Et connaissant les contraintes budgétaires, l'État n'est pas en mesure toujours de disposer du cash pour réinjecter dans la Sonabi pour lui permettre d'acquérir. L'augmentation sera de 100 francs, elle sera applicable dès la signature de l'arrêté.
Des dysfonctionnements graves ont été constatés au niveau de l'ONACER et de cadastre minier. Pour mettre fin à ces insuffisances et faire la promotion de l'intégrité, le Conseil des ministres a décidé de relever de leurs fonctions les directeurs généraux de ces institutions. Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement.
Officiellement, le Conseil des ministres a pris deux décisions importantes suite donc à un exposé montrant des dysfonctionnements graves dans certaines sociétés. Il s'agit donc du directeur général du cadastre minier qui est relevé de ses fonctions avec effet immédiat, du directeur général de l'ONACER qui est aussi relevé de ses fonctions avec effet immédiat.
Concernant l'attaque de la maison d'arrêt et de correction de Nouna, le porte-parole du gouvernement revient sur les motivations des 150 terroristes. Lionel Bilgo a aussi rassuré l'opinion publique que des enquêtes sont toujours en cours pour plus d'éclaircies sur cette affaire.
L'attaque terroriste perpétrée dans la nuit donc du samedi 7 au dimanche 8 2022 contre la maison d'arrêt et de correction de Nouna. Donc c'est aux environs donc de minuit que des individus lourdement armés ont pris d'assaut la maison d'arrêt et de correction de Nouna. Et selon les témoignages recueillis, les assaillants étaient en un très grand nombre quand même, environ 150 personnes. Les objectifs donc de cette attaque sont pour le moment encore non précis, mais selon les sources et les témoignages, vraisemblablement, les terroristes étaient venus libérer 4 des leurs.
Le Conseil des ministres a marqué son accord sur des projets de loi qui permettront une meilleure prise en charge des enfants mineurs, des victimes de terroristes, des martyrs et des héros de la nation.
Merci à Chalda. Autre décision prise au cours du Conseil des ministres, le gouvernement annonce le recrutement de 6069 agents au titre des concours directs de l'année 2022 aussi. Le Tour du Faso qui va se tenir du 10 au 20 novembre prochain. Plusieurs ministères ont aussi vu la nomination de nouveaux directeurs des marchés publics et des directeurs de la gestion des finances. Et parlant justement de l'augmentation du prix du carburant, la réaction du président de la Ligue des consommateurs du Burkina, Sami Compaoré, c'était lors de votre émission sujet à la une hier.
Évidemment, nous avons senti ça venir parce que ce n'est pas le seul pays qui s'est touché, pratiquement depuis l'international, surtout avec la crise, la guerre russe-Ukraine. on nous a toujours dit que ça ne serait pas facile. Parce que même depuis l'Europe, on a senti ça venir. Et plus précisément en Afrique, d'une manière générale, et en particulier en Afrique de l'Ouest, nous avons vu des pays voisins, notamment comme la Côte d'Ivoire, là où il y a 3 à 4 semaines de cela, il y a eu augmentation de carburant. Évidemment, la LCV s'attendait à une augmentation du prix des hydrocarbures. Mais à vrai dire, pas à un prix très très lancé comme cela. 100 francs, ce n'est pas raisonnable parce que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas l'augmentation en tant que telle. L'augmentation est bel et bien justifiée parce qu'aujourd'hui, le baril tire vers pratiquement 105,25 $. Et si on doit prendre toutes les charges, mettre en valeur, effectivement, il faut qu'il y ait augmentation. Mais quand j'ai écouté M. le ministre, apparemment, lui, son augmentation, c'est pour empêcher que nos carburants se retrouvent dans les pays étrangers. Alors nous, nous analysons que certes, c'est vrai, le carburant peut se retrouver dans les pays étrangers, mais c'est quelle qualité de carburant qui doit se retrouver dans les pays étrangers? Ce n'est pas le Super 91.
À l'instant que le président de la Ligue des consommateurs du Burkina, Sami Compaoré, au cours de votre émission, sujet à la une hier. Je vous en parlais en titre, nous sommes le 12 mai aujourd'hui donc, et c'est la journée internationale de l'infirmière. À cette occasion, Radio Omega a choisi de donner la parole à Aseta Ouedraogo, épouse Cam, infirmière depuis 21 ans maintenant. Elle nous donne les raisons qui l'ont motivée à embrasser cette carrière.
J'ai choisi d'exercer la profession infirmière parce que j'ai vu à travers des infirmières des gens qui étaient utiles à la société, des gens qui apportaient à d'autres personnes. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité, je n'ai même pas hésité et j'ai embrassé cette profession pour aussi participer à la prise en charge des malades, à être utile à mon prochain, à aider celui qui est dans le besoin. Et voilà les raisons qui m'ont motivé à embrasser cette noble profession. Et dans les centres de santé, les infirmières participent à la prise en charge des malades à travers leur accueil, leur écoute, l'administration des soins à ces derniers. Et également, nous participons à leur donner des conseils pour pouvoir éviter si ou adopter telle attitude favorable à la santé.
L'infirmière Aseta Cam à l'instant. Hors de nos frontières, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été convoqué par la justice malienne. Il est attendu le 20 juin prochain au palais de justice du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako. Lui et son fils doivent être entendus dans une affaire d'attribution de marché public pour la fabrication de passeports maliens. À l'origine de cette convocation, une plainte de l'association malienne Maliko pour des faits datant de 2015. Maliko accuse Jean-Yves Le Drian, alors ministre français de la Défense, d'avoir profité de sa position pour tordre le bras à Ibeka, alors président du Mali, afin qu'Ouverture, une entreprise bretonne aujourd'hui appelée Idemia, obtienne le marché de fabrication des passeports maliens en remplacement d'une entreprise canadienne, explique RFI. Et puis au Cameroun, on apprend un avion s'est écrasé dans la nuit d'hier. 11 personnes étaient à bord. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver les occupants de l'appareil.
La revue de presse.
L'augmentation du prix des hydrocarbures au Burkina et l'attaque au Togo sont les principaux sujets commentés par les quotidiens burkinabés de ce jour. La revue de presse de ce jeudi, c'est avec Brigitte Yoda.
Augmentation du prix du carburant affiche le quotidien. Pour Sidoya, c'est une augmentation autorisée par le gouvernement. On va nous pomper 100 francs de plus, écrit l'Obs à sa une. Plus 100 francs à la pompe, précise l'Express du Faso, qui avait déjà prédit la flambée des prix dans sa rubrique « Autant le dire ». Et nous y voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Pour le journal, il faut craindre pour le consommateur burkinabé que cette augmentation n'entraîne celle des transports, ce qui pourrait à son tour avoir une fâcheuse répercussion sur les prix des denrées importées, à moins que le gouvernement ne prenne des mesures d'atténuation comme la baisse de la TVA par exemple, espère l'Express du Faso, qui se prononce aussi sur l'attaque terroriste survenue dans le pays de Fornia-Simbé dans la nuit du 10 au 11 mai 2022 près de la frontière avec le Burkina Faso. Pour la deuxième fois, les terroristes ont frappé fort le Togo, écrit notre confrère. La première fois n'était donc qu'un petit échauffement en attendant le vrai carnage, renchérit l'Obs. Le Togo est en deuil. Il pleure la mort de plusieurs de ses soldats tués dans une attaque terroriste perpétrée par des hommes armés non identifiés, déplore le pays qui se demande si le ver est déjà dans le fruit. Et le journal de Répandre, le patron des renseignements français, n'avait-il pas prévenu qu'après le Sahel, les terroristes projetaient d'étendre leurs tentacules vers les pays du littoral? Tous ceux qui en doutaient en ont désormais la preuve. Selon l'Express du Faso, cette attaque qui a lieu au lendemain de la rencontre des chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO sonne comme un avertissement. À la limite, c'est un affront. C'est pourquoi notre confrère pense qu'il faut agir vite avant que le phénomène ne prenne davantage des proportions difficiles à contenir. Car, dit-il, si les terroristes s'installent dans les grandes forêts des pays côtiers, les combattre serait encore plus difficile. Pour l'observateur Palga, l'heure est plus que jamais à la mutualisation des moyens, notamment de renseignements dans la sous-région. Ce qui vient d'arriver au Togo devrait d'ailleurs être l'occasion de remettre au goût du jour le projet d'élargissement du G5 aux pays du Golfe de Guinée qui sentent le souffle de la pieuvre se rapprocher, suggère le doyen des quotidiens. Selon le pays par contre, il revient à l'Union africaine de porter le combat. Il y va de la survie du continent. Tout en saluant la tenue à Marrakech au Maroc de la 9e réunion ministérielle de la coalition internationale contre Daesh, première du genre sur le continent noir, le pays en appelle à la responsabilité des dirigeants africains qui se doivent de comprendre que l'heure est venue de s'assumer pleinement en comptant désormais sur leurs propres forces.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Nous parlons de l'attaque terroriste au Togo qui a fait 8 militaires tués dans la nuit de mardi à mercredi près de la frontière burkinabé avec notre invité. Il s'agit d'Alkassoum Abdourahmane, analyste sociopolitique spécialisé sur les questions humanitaires et sécuritaires au Sahel, au micro de Brigitte Ouda. Il nous dit à ce que les pays de la CEDEAO doivent faire pour être plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme.
Alkassoum Abdourahmane, bonjour.
Bonjour.
Dans la nuit du 10 au 11 mai, le Togo a enregistré une attaque meurtrière, au moins 8 soldats tués et 13 autres blessés. Le gouvernement parle d'attaque terroriste. Est-ce que ce qu'on craignait, que les groupes armés se déportent vers les pays côtiers, est en train de se produire?
Oui, moi je pense que ce n'est pas ce qu'on craignait, c'est ce qui a été déjà aperçu de loin, puisque dans tous les cas, il y avait eu des attaques en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, il y avait eu des attaques au Bénin. Et tout le monde savait que le but, l'objectif principal des groupes terroristes, c'est d'aller vraiment aux côtés de la mer, du côté de l'Atlantique, et puis voilà, prendre ou s'installer dans les pays des Golfe de Guinée. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a l'ombre d'aucun doute que c'est fait et que c'est réussi. Ils ont signé leur présence dans au moins 3 pays côtiers, sachant bien sûr qu'il y a des informations qui confirment aussi des gestations de ce genre du côté du Ghana.
L'attaque a eu lieu au nord du Togo vers la frontière burkinabé. Est-ce que vous pensez que la 60aine d'hommes armés à moto viennent du Burkina et comment analysez-vous la situation?
Dans tous les cas, on peut dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, le Burkina, ses forces de défense et de sécurité, ils sont en train de montrer une certaine résilience lente par rapport à ce qui se passe. Ce qui fait que dans tous les cas aussi, ce qui se passe au Burkina aujourd'hui en termes d'attaque, c'est la résistance et la résilience des forces nigériennes. Donc si le Burkina, surtout qu'on a vu ces dernières semaines, il y avait eu des opérations conjointes entre le Burkina et le Niger. Donc ça veut dire qu'il y a une pression. La pression a fait qu'ils ont pu trouver une échappatoire du côté du Togo et jusqu'à ce qu'ils ont fait cette attaque, peut-être qu'ils se sont installés, ils ont déjà des bases arrières. Donc je pense que la pression aussi doit continuer du côté du Togo. On peut dire que vraiment c'est la conséquence, c'est la résultante des opérations qui sont au cours aujourd'hui au niveau du Burkina qui ont créé ça. Et dans tous les cas, il faut reconnaître si c'est le cas, le Burkina a bien fait de laisser une porte de sortie à cet ennemi-là. Et de l'autre côté, maintenant, en fonction de la résistance et de la résilience des forces togolaises, on verra. L'étau vraiment peut se resserrer aujourd'hui contre eux avec une vraie coordination des renseignements, des forces et avec des opérations conjointes qui maintenant seront au-delà du G5, mais à l'échelle CEDEAO.
Au-delà du G5 Sahel, mais à l'échelle CEDEAO, justement, que pensez-vous qu'il faut faire pour être plus efficace dans la lutte contre le terrorisme quand on sait que les pays entre eux collaborent déjà en matière de sécurité?
On a vu la limite en ce sens qu'en termes de mobilisation des ressources financières pour l'achat des équipements, en termes de coordination des renseignements, de coordination des forces, on peut dire qu'au niveau africain, c'est un échec, puisque les pays des G5, par exemple, ont été laissés à eux-mêmes. Et leur tentative même laconique de mobiliser des ressources financières auprès d'autres États, donc, a vite voué à l'échec. Donc, moi, je pense que dans un premier temps, les pays qui vont réussir cette lutte, ce sont les pays qui ont anticipé par rapport à ce qui se passe déjà au Sahel pour moderniser leurs armées, créer des unités spéciales, intégrer la lutte antiterroriste dans la formation de leurs forces de défense et de sécurité. Et ce sont des pays aussi qui vont s'ouvrir à la compétence, à l'expérience des autres pays voisins et aussi qui vont s'ouvrir à l'expérience des autres forces occidentales ou d'autres forces étrangères qui ont l'expérience, qui ont fait leurs preuves ailleurs et qui ont des moyens qui s'adaptent aujourd'hui à cette menace nouvelle.
Et dans cette lutte contre le terrorisme, on a le Burkina Faso qui se trouve dans une position délicate après le coup d'État du MPSR. Le pays est dans le collimateur de la CEDEAO, qui l'a suspendu de ses instances. Les nouvelles autorités estiment qu'il ne faut pas penser aux élections maintenant, mais penser plutôt à la sécurité, et que cela aussi y va de la survie des autres pays de la sous-région.
Au fait, prise de pouvoir avec justificatif sécuritaire par des militaires démontre tout simplement l'immaturité politique des armées, des États qui le font. Quand vous prenez le cas du Nigeria, depuis 2009, ce pays, cet État fédéral, il fait face à une situation d'insécurité avec Boko Haram. Mais l'armée nigériane s'est montrée républicaine et politiquement bien dosée et bien assise pour soutenir les civils qui se sont succédés au pouvoir depuis cette période et que la lutte continue. Donc c'est ce qu'auraient dû faire aussi les autres États, comme le Mali et le Burkina, et malheureusement, ça n'a pas été au rendez-vous. La CEDEAO aujourd'hui, elle est dans une situation très très délicate, celle de collaborer avec des régimes illégitimes, illégaux, collaborer avec eux politiquement et collaborer avec eux dans le cadre de la sécurisation de son espace, dans le cadre de la lutte antiterroriste. Sachant bien sûr que, quelle que soit pas aussi sa volonté, elle risquerait de ne pas pouvoir drainer des financements adéquats venant des partenaires sur ses partenaires traditionnels dans le cadre de cette lutte, surtout dans des zones qui sont contrôlées par des régimes illégitimes.
Al-Kassoum Abdourahman, merci.
Oui, c'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction.
Voilà, donc c'était notre invité. Avec lui, donc, nous référons cette édition à la réalisation Edwige Tindrebiogo, à la présentation Denis Zungrana et la mise en ligne Ibrahim Niaouni.
Radio Omega, l'info en direct.